La Belgique va mal. Les gens ont faim. Des fortunes immenses se sont faites sur le dos de la population. Faut que ça change. Les Flamands ne veulent pas du néerlandais qu'on leur impose. Cette langue leur est étrangère. Les intellectuels, eux, veulent changer le régime. Ils exigent une presse libre. Ils veulent que les ministres soient responsables de leurs actes devant le peuple. Et puis, surtout, ils ont une furieuse envie de participer à la vie politique du pays. Le 25 août 1830, au programme du Théâtre de la Monnaie, la Muette de Portici, un opéra qui évoque la révolte des Napolitains contre les Espagnols. Dans la salle, des bourgeois, des jeunes intellectuels. Le spectacle a déjà été interdit, mais aujourd'hui, c'est spécial. C'est l'anniversaire de Guillaume Ier, alors cadeau. Et quel cadeau, mes amis! L'opéra est à nouveau autorisé. Quand le ténor chante « Amour sacré de la patrie », c'est le délire. On applaudit debout. Et puis, bientôt, les gens sortent du théâtre. On se bouscule dans les couloirs. C'est la ruée dans les escaliers. À bas les Hollandais, on veut des réformes. Le public ressent la même injustice que les héros de l'opéra. Les gens se sont répandus dans la ville. Ils ont allumé des torches et veulent bouter le feu à tout ce qui est hollandais. Les journaux qui soutiennent le régime sont brûlés dans la rue. Le mobilier du ministre de la Justice passe par les fenêtres. Nous sommes à Liège. La révolte gronde ici aussi. Et les nouvelles des émeutes de Bruxelles arrivent par la malle-poste. Nous allons retrouver Charles Rogier. Il est à la place de la Comédie. Il distribue les armes sous les galeries du Théâtre Royal. C'est là qu'il a donné rendez-vous à tous les volontaires. Il faut rejoindre Bruxelles et chasser les Hollandais. Les armuriers donnent leurs munitions. Tout le monde se sert. Les futurs combattants arrivent de toutes les ruelles. La foule converge vers la cour du Palais de Justice. Ici, on compte plus de 1500 volontaires bien armés. Parmi eux, un valeureux grognard de Napoléon qui a perdu une jambe en Russie. Il est là, charrier à la jambe de bois, avec son canon. La troupe improvisée se met en route. Mais les hommes ont avalé des péquets, beaucoup de péquets. Et on en perd en chemin qui s'écroule dans les fossés ou change d'idée. La troupe quitte Liège par Pierreuse et le faubourg Sainte-Marguerite, puis les chemins de campagne vers Wavre et à pied. Charles Rogier arrive à Bruxelles avec un peu plus de 200 hommes. Mais c'est bien assez pour ragaillardir les Bruxellois qui l'accueillent en libérateur. Les Hollandais arrivent avec 17 000 hommes et 52 pièces d'artillerie. Nous, on est 2000. On n'a pas de commandement. Les bourgeois et les notables ont déserté la ville. Même Rogier a eu peur. Il s'est enfui dans la forêt de Soignes. Les Bruxellois dressent des barricades. Faudra se battre avec toutes ses dents. Guillaume Ier rappelle au commandement de son armée qu'il ne veut pas qu'on verse le sang des Belges. Les troupes hollandaises finissent par marcher sur Bruxelles. Elles sont accueillies par un feu nourri, porte de Schaerbeek, où les attendent une quarantaine de Liégeois. Les Hollandais sont surpris. Ils s'engouffrent dans la rue Royale et descendent vers la ville basse. Là, de nouvelles barricades. Chaque maison est un fortin. les citoyens bruxellois balancent tout ce qu'ils peuvent sur les troupes hollandaises. Sous chaque tuile, il y a un fusil. L'armée hollandaise croyait devoir calmer quelques rebelles. Elle était tripée par des troupes la mort. Et voilà les Hollandais dans le parc de Bruxelles, pris au piège. Le canon de Charlie et Jean de Bois, installé rue de la Régence, prend en enfilade le parc et la rue royale. Embusqués derrière les murs, plantés dans les embrasures, les Belges ne manquent aucune de leurs cibles. C'est une bataille de rue. Elle désarçonne les Hollandais. Une bataille sans vrai chef. Une sorte de guérilla urbaine, sauvage et déterminée. À l'aube du 27 septembre 1830, les troupes hollandaises ont mystérieusement disparu. Le brouillard a favorisé leur départ. La victoire est acquise. Les Hollandais sont battus. Bruxelles explose de joie. Bruxelles s'enivre. De cette journée héroïque, que reste-t-il? Cette balle, plantée dans un livre, comme une relique du 27 septembre 1830. Et ses mains, ses regards, ses incertitudes, ce miracle accompli par le peuple de Bruxelles. Eh bien voilà, la révolution est terminée. Nous nous sommes battus. C'est vrai, 500 morts et plus de 1000 blessés, nos martyrs. Mais sans cette maladresse des Hollandais qui se sont jetés dans la gueule du loup et sans les consignes de Guillaume Ier, ne versez pas le sang de la moitié de mon peuple, elle aurait pu se terminer autrement, notre révolution. Il s'en est fallu d'un rien. Maintenant, tout reste à faire. Et mes amis, si on n'a pas de génie, on est foutus. Parce que nous ne sommes nulle part. Les grandes puissances nous attendent au tournant. Il faut leur prouver que nous sommes capables de mettre au monde une nouvelle nation. Ce sont eux qui vont prendre les premières décisions de l'histoire de la Belgique indépendante. Ils sont tout jeunes. Moyenne d'âge de ce gouvernement provisoire, 37 ans. Charles Rogier y est. C'était écrit. Avec Louis de Potter, le journaliste. Vous vous souvenez? Ils sont 10, catholiques et libéraux. Ils détiennent toutes les compétences d'un vrai gouvernement. Et les choses ne traînent pas. Le 18 octobre 1830, le comité central décide d'élaborer un projet de constitution. Un congrès national est convoqué pour l'examiner et l'adopter. Chacun flotte dans son rêve. Chacun est dans son histoire et dans son idéal. Ces étudiants, jadis privés de tout pouvoir, sont aujourd'hui à la tête de l'État. Regardez ce document. Il est unique. S'il est abîmé, c'est qu'il a failli être perdu dans un incendie. Ce document proclame l'indépendance du peuple belge. Le premier drapeau tricolore, c'est elle qui l'a cousu. Vite fait, mais bien fait pendant la Révolution. Il est aux couleurs du lion. Le noir représente les yeux, le jaune la robe et le rouge la langue. La Constitution, la voici, on nous la porte. C'est l'ensemble des lois fondamentales d'une nation, la charpente de l'État, sa carte d'identité. Je ne vous mens pas. La Constitution belge a été rédigée en moins de 6 semaines par ses tout jeunes ministres. C'est ici, dans la salle de lecture du Parlement actuel, qu'elle a été écrite. À la main, en 1831. La Constitution prévoit notamment que les ministres sont responsables de leurs décisions devant la nation, que l'État belge est unitaire et que le peuple a des droits et des libertés. C'est à ce moment aussi que l'on se demande quelle forme prendra l'État. Si ce sera une république ou une monarchie. Paul Deveau et Joseph Lebeau plaident pour la monarchie. Si nous décidons d'avoir un roi, il n'aura aucun pouvoir, mais il garantira l'ordre et la stabilité du pays. Qu'est-ce que vous en dites? Tout le monde est d'accord, ou à peu près. C'est oui à la monarchie. Et si c'est oui à la monarchie, il faut se trouver un roi. Notre futur roi est d'origine allemande. Il vit à Londres. Les Anglais l'apprécient beaucoup et les grandes puissances lui font confiance. Il accepte le trône de Belgique et les principes de la Constitution. Il sait que le roi règne, mais ne gouverne pas. Nous avons un roi à nous. La nouvelle se répand à la vitesse de l'éclair. À Londres, on a proclamé la neutralité de la Belgique. Personne ne nous attaquera plus. C'est la fête dans toutes les villes. On a le sentiment qu'un destin vient de s'accomplir. Le roi est là. On ne l'a jamais vu, mais on l'attend pour l'accueillir. Il s'appelle Léopold de Saxe-Cobourg. Il sera le premier roi des Belges. Le 21 juillet 1831, Léopold Ier entre à Bruxelles. Les Bruxellois ont jeté des fleurs sur les pavés. Des détachements de cavalerie précèdent les volontaires de la Révolution. C'est le délire. Partout on entend « Vive le roi! Vive le roi !» Adossé à l'église de Saint-Jacques sur Codenberg, le trône royal est surmonté d'un dais, or et blanc. Le roi prête serment sous un tonnerre d'acclamations. C'est extraordinaire. Et ça s'est fait si vite qu'on a peine à y croire. Pourquoi tant d'exaltation? Parce que le roi incarne l'indépendance, la paix, la sécurité, et qu'on en a drôlement besoin. Voilà Léopold Ier, tout jeune, des yeux de séducteur romantique et une volonté farouche d'avaler le monde. Il est né à Cobourg, en Bavière. Sa vie est exceptionnelle. Tenez-vous bien, il a été général dans l'armée russe. Napoléon a failli en faire son aide de camp. Et puis, voilà qu'en 1815, il demande la nationalité anglaise.